votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1.
RMC, Alpine en immersion.
Bonjour, je suis Émilie Desjardins et je suis ingénieure de l'environnement à Alpine. Pour moi, la F1, c'est une passion et un monde innovateur.
RMC Alpine en immersion.
Valentin Jamin.
Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'écurie française de Formule 1 Alpine. Dans ce podcast Alpine en immersion, découvrez l'équipe de F1 française de l'intérieur, comment sont fabriquées les pièces, que font les pilotes en dehors des jours de course, quelles ambitions pour le futur d'Alpine.
Alpine en immersion.
Dans ce 11e et dernier épisode, la Québécoise Émilie Desjardins, ingénieure environnement et développement durable, nous reçoit sur le site d'Enstone en septembre pour évoquer les initiatives écologiques mises en place et les combats à mener. Bonjour Émilie Desjardins.
Bonjour.
Alors vous êtes en charge de l'environnement et du développement durable à Enstone ici donc en Angleterre. Déjà est-ce que vous pouvez nous parler de ce site puisqu'on est un petit peu perdu quand même dans la campagne.
Absolument. On est situé environ 30 minutes d'Oxford sur un site de 17 acres. C'était un site qui était une carrière de calcaire avant de devenir un site de Formule 1 en 92 avec l'équipe de Benetton premier, ensuite Lotus, Renault et maintenant Alpine.
Donc là, on est vraiment entouré de champs, en fait. C'est ça, autour de nous.
Exactement. Ta campagne est vraiment, t'arrives, ça surprend qu'une écurie de Formule 1 située dans le milieu de nulle part, vraiment.
En charge du développement durable, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour vous?
Ça veut dire que moi, je suis responsable de faire les calculs nécessaires pour calculer notre empreinte de carbone du site et aussi aux courses et de s'assurer qu'on suit les directives non seulement de la FIA, donc la Fédération internationale d'automobile, et aussi de la Formule 1, ainsi que nos propres stratégies de développement durable. Donc, on s'assure de faire les tri de déchets nécessaires, on regarde aux aspects d'énergie renouvelable pour le site, etc.
D'autant qu'il y a du coup un règlement avec une histoire de 3 étoiles, etc. C'est ça qui va entrer en...
Oui. Donc, par l'année prochaine, en juin, tous les écuries seront obligatoires d'avoir un niveau de 3 étoiles pour l'accréditation de la FIA. Donc, on garde nos doigts croisés. On aura un audit pour s'assurer qu'on suit les 17 catégories de la soumission.
Avant de faire un petit tour des différentes initiatives, vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps parce que le poste a été créé notamment dans le but d'améliorer tout ce qui est développement durable, etc.
Exactement. Je suis originaire du Canada et j'ai commencé ma carrière en énergie pas si longtemps passé. J'ai fait ma maîtrise en énergie renouvelable et travaillé dans la gestion de déchets. Donc, j'ai une grande expérience très vaste de développement durable et j'ai venu pour essayer de changer un peu l'image de la Formule 1.
Depuis avril ici, c'est ça?
Depuis avril, exactement.
Donc, vous m'avez dit que vous aviez mis en place plusieurs initiatives. Allons-y. Donc, pour décrire, on se trouve, j'allais dire, derrière les bâtiments d'Enstone, donc un petit peu dans la campagne, beaucoup de verdure, des petits oiseaux qui chantent. Il y a des ruches notamment.
Des ruches d'abeilles, oui. Il y avait un employé qui avait une ruche d'extra, une ruche d'abeilles, et il voulait contribuer à la biodiversité du site. On accepte toujours ça. On a, je pense, 6 chats qui vivent sur le site aussi. Il y avait des oiseaux partout, une panoplie d'arbres. On a 3 espèces d'orchidées, des espèces assez rares. On garde un compte à chaque année. Cette année, on a augmenté le compte. Donc, on est très fiers de notre augmentation dans la biodiversité du site.
On commence un petit tour, du coup? Allez, allons-y.
Ça, c'est un arbre qu'on a planté en mémoire d'Antoine Hubert, qui était un jeune pilote de Renault Sport Academy, qui est décédé en 2019 dans un accident. On a planté un arbre et on a un banc que certains jeunes pilotes viennent s'asseoir qu'ils connaissaient. Puis
se recueillir?
Se recueillir, exactement. Okay. Ouais.
Est-ce que le ciel est toujours gris à Enstone?
La majorité du temps, oui. Pendant cet été, on a eu beaucoup, beaucoup de soleil. On a des panneaux solaires sur quelques toits qu'on a eu la chance d'exploiter, mais rare. C'est rare. Beaucoup de pluie.
Ça fait pousser les arbres.
Exactement. On voit toujours le bénéfice. Ça, c'est des vieilles parties de exhaust de voiture qu'on a utilisées pour créer un banc relativement beau, une pièce d'or, vraiment.
Alors là, on a un ours en plastique qui est assis dans l'herbe, c'est ça?
Exactement, c'est un ours en plastique, une poubelle. Ça fait des années que c'est là. C'est en mémoire d'un des employés qui était décédé. D'accord. Et qui aimait vraiment les ours.
Ok, d'accord, ok. C'est un petit message.
Un petit message.
Est-ce que toutes ces initiatives, elles sont bien reçues et bien comprises par tous les employés? Parce qu'on sait que la Formule 1 et le sport auto en général, c'est pas quelque chose qui a toujours été sensible à l'environnement. Comment c'est perçu?
En effet, dernièrement, au site, on a commencé à faire un bulletin bimensuel où on explique les raisons pourquoi c'est important pour nous de commencer à faire le développement durable et pourquoi tout le monde, c'est nécessaire de faire sa part. Et ça, on a eu beaucoup de bonnes répliques et beaucoup d'initiatives qui ont été créées par certains membres de l'équipe pour leur département et pour améliorer les contrôles de l'environnement dans certains endroits de notre site.
OK. Donc, certains ont été force de proposition, c'est ça?
Exactement, oui, okay. Oui.
Est-ce que c'est dur de changer certaines mentalités ou...
Un peu, puisque la nature du sport, c'est pas nécessairement vu en étant durable ou sustainable. Mais on voit souvent à la télévision maintenant que la Formule 1 veut vraiment pousser les initiatives. Et en effet, en 2026, le carburant qui va être utilisé pour les voitures sera 100% éco. Donc, on voit de plus en plus l'importance que le sport met sur les écuries. Donc, on essaie de faire des changements assez directs, mais en même temps, on ne veut pas changer la manière de travail. Donc, on essaie de toujours innover et de s'assurer qu'on ne fait pas du greenwashing.
Il faut y aller par étapes,
ouais.
En fait, c'est ça?
Oui, exactement, oui.
Et vous avez senti une vraie évolution des mentalités?
Oui, je pense que la FIA et l'obligation des équipes d'avoir la certification de 3 étoiles, personnellement, m'a vraiment aidé à pousser les initiatives nécessaire et je me sens comme si la jeune génération qui regarde le sport sont très passionnés du développement durable et s'assurer que la planète et que le réchauffement climatique cesse d'augmenter et la pression est vraiment mise sur nous de faire notre part puisque évidemment les deux voitures sur une piste ça c'est pas nécessairement vu comme étant cool. Bon pour l'environnement, évidemment, mais avec les changements qui viennent dans les prochaines années et les stratégies qui s'alignent pour l'année 2030, on fait le nécessaire et on a des gens très intelligents qui travaillent fort pour trouver des initiatives qui sont non seulement applicables à la Formule 1, mais pour tous les niveaux des entreprises.
RMC Alpine en immersion.
Pour avoir les 3 étoiles de la FIA, quels sont les critères?
Les critères sont majoritairement de faire les meilleures pratiques dont les aspects sont l'énergie. Donc, on essaie de réduire nos énergies, mais aussi de faire le plus d'énergie renouvelable sur le site comme tel. On a aussi fait des calculs d'empreinte carbone à très transparent et comment on calcule et faire s'assurer que le public ait accès. Faut qu'on trouve des solutions pour augmenter notre tri de déchets. On a aussi l'utilisation d'eau, réduire notre consommation d'eau, aussi pour la chaîne d'approvisionnement. C'est beaucoup de niveaux et beaucoup de documentation et s'assurer qu'on a les méthodologies en place et les stratégies pour réduire année en année. D'accord. Donc, c'est pas seulement montrer c'est quoi nos chiffres, mais aussi développer des stratégies pour les réduire en année en année.
En ce qui concerne l'empreinte carbone, ça concerne les déplacements?
L'empreinte carbone prend en considération tout ce qui contribue à négativement des gaz à effet de serre, à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est non seulement le transport, mais c'est l'énergie. Donc, il y a des facteurs de conversion pour, par exemple, 1 kWh d'énergie qu'on utilise émet un tel montant de carbone. Ouais, okay. Donc, on peut calculer notre empreinte comme ça. Et on prend en considération aussi la chaîne d'approvisionnement, nos déchets et une consommation d'eau, ça prend tout en considération.
D'accord.
Le transport, et surtout pour nous, le transport des équipes aux autres pays, aux autres...
Ça, vous avez changé les choses ou j'imagine que c'est peut-être le plus compliqué?
C'est un peu compliqué puisqu'on n'a pas vraiment le choix d'aller à toutes les courses. Par contre, on essaie de trouver des solutions pour utiliser des meilleurs carburants. Donc, on a des camions pour apporter la fret nécessaire à toutes les courses. On utilise maintenant des nouveaux carburants dans les voitures. Donc, on va essayer d'utiliser...
Dans les camions, par exemple?
Dans les camions, oui. Ça va du HVO. C'est un carburant éco. Donc, ça sera en place dans les prochaines années. Et c'est une obligation aussi par la Formule 1.
Et en fait, la FIA, pour vous donner le label 3 étoiles, se déplace sur votre site?
Oui.
En plus, j'imagine que vous envoyez des documents, mais ils se déplacent aussi, c'est ça?
Oui. On va soumettre tous les documents nécessaires. Et dans à peu près 6 mois, on va avoir un audit sur le site qui vont tout regarder les documents et s'assurer qu'on pratique vraiment ce qu'on met en papier. Et ils peuvent vraiment demander à n'importe quelle personne sur le site et demander c'est quoi notre... politique environnementale et où elle peut se trouver et décrire un peu qu'est-ce qu'on fait. Et il faut faire sûr que tous les employés savent, soient au courant, exactement. Sur la grosse bâtisse ici, malheureusement, on peut pas placer des panneaux solaires sur le toit. Ils peuvent pas supporter la charge. Donc, on essaie vraiment de trouver un endroit proche où on peut mettre beaucoup de panneaux solaires pour toute notre énergie. Donc ça, c'est une initiative qu'on espère avoir dans les prochaines années.
Ça veut dire dans des bâtiments qui seraient pas loin d'ici, c'est ça? Et vous récupéreriez l'énergie?
On aurait l'énergie, mais on essaie de trouver un champ et on bâtirait les panneaux solaires nous-mêmes.
Donc là, on rentre à l'intérieur du bâtiment avec donc devant nous des poubelles à recycler, ce qui peut paraître basique, mais peut-être que c'était pas là avant.
C'est un peu basique, oui, mais on a ajouté les panneaux en arrière pour vraiment être clair à qu'est-ce qui va dans chaque poubelle.
Parce qu'il y avait des erreurs.
Exactement. Donc, on veut faire ça le plus facile possible et éviter les erreurs. Et on a remarqué qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont mettre les choses dans la mauvaise, se faire dénoncer par des collègues.
D'accord. Ouais. Donc en fait, de ce que vous nous dites, il y a beaucoup la volonté de responsabiliser les gens.
Exactement. On veut changer la méthodologie envers...
On partait de loin?
Oui. C'est... La Formule 1, ça a toujours été faire 2 voitures, aller le plus vite possible à chaque fin de semaine. Et maintenant, on regarde plein d'initiatives où on veut augmenter la diversité dans les écuries. On veut faire des développements durables. Puisqu'on a tellement, tellement de gens qui regardent la Formule 1, on met plus d'importance au public. On veut montrer qu'on fait l'exemple.
Justement, j'allais demander aussi, parce que c'est la question forcément qu'on se pose, c'est pas qu'une question d'image.
Donc, on veut s'assurer qu'on fait pas juste l'image externe, qu'on pratique ce qu'on dit et que les gens nous voient comme exemple à travers des écuries aussi. On a une stratégie maintenant avec Race Her. Donc, on veut augmenter le taux de femmes qui travaillent dans l'écurie et ça va en lien avec le développement durable de l'écurie. Et...
Tu sens que tu as les moyens? Je sais pas si le budget est en augmentation ou si...
En général, les développements durables tombent pas dans le casse-cap. Donc, on a quand même un budget, mais si ça contribue pas à la construction de la voiture, on peut attribuer ses frais à l'extérieur de casse-cap. Et casse-cap, c'est le montant d'argent qu'on a le droit de mettre dans la voiture.
Donc là, l'hiver arrive. En France, d'ailleurs, on parle beaucoup de sobriété énergétique, baisser le chauffage, etc. Est-ce qu'il y a la clim? Est-ce qu'il y a le chauffage ici?
Présentement, non. On va mettre en place des contrôles environnementaux pour garder la température stable à travers du site et aussi s'assurer que quand il n'y a personne dans les bureaux, que tout s'éteint. Donc, la ventilation, l'énergie et le chauffage pour réduire notre base d'énergie. Et ça, on va voir des gros changements à ce niveau parce que présentement, on s'est aperçu que pendant la pandémie, quand il n'y avait personne sur le site, notre consommation d'énergie était quand même haute. Donc, on va voir des grands changements quand on met les contrôles en place.
Alpine en immersion.
Est-ce qu'il y a des objectifs fixés, précis, en termes de ce que vous dégagez comme...
En termes d'énergie, on espère réduire par 10% au moins par 2025. Et on regarde présentement une stratégie de décarbonisation complète par l'année 2030. En effet, quand on parle de décarbonisation, on retourne à l'empreinte carbone. Mais l'empreinte carbone prend en considération toutes les émissions. Et un net zéro ou décarbonisation complète, ça va jamais se faire. Il va toujours avoir des émissions qu'on peut pas arrêter. Mais on va regarder à ce niveau des offsets qui vont, on peut acheter un offset.
Ça veut dire quoi un offset?
Donc un offset, c'est un bon exemple, c'est un arbre. Donc si tu pousses un arbre, ça va absorber le carbone dans l'air. Donc ça, c'est considéré un pour un. Et pousser un arbre, c'est un type d'offset. Tu compenses les émissions que tu as déjà dégagées pour dire que tu as payé le montant que tu as émis. En prenant un carburant plus propre ou en trouvant une méthode pour capturer les émissions que...
D'accord. Par exemple, vous émettez des gaz à effet de serre, mais vous plantez des arbres qui vont les récupérer parce qu'on sait que les arbres prennent le CO2 et rejettent de l'oxygène.
Oui. Oui.
Donc là, on est dans les bureaux depuis tout à l'heure. Donc si je comprends bien, un site purement neutralité carbone, c'est utopique?
Exactement, oui. Donc utopique, dans un sens, il y a plusieurs termes dans le monde développement durable. On a le net zéro, il y a aussi être carbone neutre et décarbonisation. C'est tout très, très semblable, mais un peu différent. La stratégie de Formule 1 demande à toutes les écuries d'être net zéro par 2030. Net zéro, ça veut dire que tu calcules non seulement tes émissions du site, mais dû au transport et l'approvisionnement des matériaux et à le taux de carbone que tu vas émettre. Il faut s'assurer que ça descend chaque année et que tu achètes le montant de offset qui est de surplus. Donc, on s'attend que le coût des offsets, ça va être très élevé par 2030. Donc, il faut vraiment s'assurer de faire la bonne chose et de...
Pour pas être prise au piège en 2030
exactement.
Et se dire, ah mince, on n'a rien fait.
Ah, exactement, oui. Et réduire vraiment l'empreinte carbone. On veut aussi montrer l'exemple. Donc, tout de suite, on sait que la plus grosse contribution à notre empreinte carbone, présentement, c'est la consommation d'énergie et l'approvisionnement des matériaux. Donc, les meilleures choses qu'on peut faire, c'est d'établir d'énergie renouvelable sur le site comme tel. Ça va enlever complètement notre impact sur l'environnement en termes d'énergie. Et on va utiliser des matériaux qu'on peut trouver locaux. Donc, on essaie vraiment de garder tous les matériaux qu'on prend à travers du Royaume-Uni ou en Angleterre, en France. Essayer de plus en plus à mettre la pression sur nos fournisseurs aussi. Donc, c'est comme ça, on va essayer de plus en plus à réduire à chaque année. Mais vraiment, comme on penserait que ça serait dû au voyage de fret. Mais en effet, c'est vraiment la business du site comme tel qui monte la plus grande impact.
Oui, en fait, c'est pas les transports sur les Grands Prix qui polluent le plus, mais c'est ce que dégagent les sites de production, etc.
Ouais. Et les sites comme tel, une fois que l'écurie est rendue à un circuit, c'est vraiment la responsabilité du circuit comme tel de s'assurer qu'eux aussi doivent avoir les niveaux de 3 étoiles de la FIA.
Est-ce que le milieu de la Formule 1, finalement, est en retard par rapport aux consciences et du coup est en train de se rattraper? Enfin, de quel œil vous voyez ça, vu que vous êtes vraiment dans le vif du sujet?
Moi, je pense qu'ils sont de l'avant. Honnêtement, si tu regardes d'autres sports, c'est vraiment un des seuls sports que je dirais qu'on a une stratégie en place qui demande à tous les participants de faire leur part. Donc, un exemple, c'est le Tour de France, par exemple, est un des plus gros émetteurs de carbone. Mais quand tu regardes les cyclistes, c'est vert, c'est beau, c'est une bicyclette. Mais nous, c'est des voitures qui brûlent du carburant sur différentes places autour du monde. Évidemment, c'est moins beau en termes d'éco-responsable. Donc, je pense que la Formule 1 a vu ça, et avec Netflix puis l'augmentation des fans, ils mettent la pression pour s'assurer qu'on ne se met pas du retard. Et les buts de 2030, c'est pas facile. Donc, ils mettent beaucoup la pression sur les écuries de s'assurer qu'on fait la bonne chose. Et les audits nous tiennent vraiment responsables, on dirait. Mais je pense avec l'équipe qu'on a ici, on a des bonnes idées. On sait qu'on veut faire l'exemple aussi. Pas juste seulement pour cocher les boîtes que la Formule 1 nous demande, mais on veut être l'exemple parmi les écuries et vraiment éviter le éco-blanchissement.
Alors, là, on arrive... Au niveau de votre bureau, il y a la petite affiche qui est récente.
Oui, donc ça, c'est notre politique environnementale. On l'a collée sur plusieurs portes autour du site pour s'assurer que tout le monde le voit. Et on parle un peu de la réduction de consommation d'énergie et d'eau, augmenter notre recyclage, réduire notre impact sur la qualité de l'air et de s'assurer qu'on ne pollue pas avec nos déchets.
Il y a un petit cercle avec les actions prioritaires, c'est
oui,
ça?
Oui, oui. C'est plus ou moins pour s'assurer qu'on communique bien à tous nos collègues et qu'on s'assure que la distribution des informations sont précises, mais aussi qu'on essaie de faire le plus simple possible. On ne veut pas mettre beaucoup de responsabilités qui ne sont pas faisables, mais des petites choses à la fois vont toujours faire un impact.
Signé par M. Laurent Rossi, votre grand patron.
Ouais, ben maintenant il sait que l'environnement c'est important et ça va vraiment du haut et nos directeurs sont tous au courant et ils poussent souvent l'initiative.
Donc là on arrive dans votre bureau. Vous travaillez à combien sur ce sujet de la durabilité, du développement durable, etc.?
On est 5 dans l'équipe. On travaille aussi sur les infrastructures et les services du site aussi. Ils sont responsables de la construction et les services de gestion de déchets, les services de sécurité aussi. Donc, c'est un bureau qui fait un petit peu de tout.
Là, vous êtes sur quel dossier, là, précisément, en ce moment? Vous nous disiez qu'il y a ces 3 étoiles de la FIA qui sont très importantes. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement?
Moi, présentement, je prépare la documentation nécessaire pour notre soumission. Donc, on va envoyer l'email, doigt croisé, et attendre une réplique. Mais moi, je travaille sur finaliser notre système d'aménagement d'environnement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, très concrètement, mettre des installations pour l'écologie, le développement durable.
Oui, c'est un document, en effet, qui détaille l'histoire du site, initialement, et qui montre les responsabilités et les méthodologies en place pour une série d'aspects, qui soit l'énergie, l'eau, donc qui montre comment on va calculer l'impact et comment on va le réduire et qu'est-ce qu'on fait en place maintenant et qui sont les responsables. Donc, c'est vraiment le système qui va être utilisé pour les années qui viennent.
Et comment vous êtes en contact avec tous les gens du site sur ces sujets? C'est des emails? Vous parliez d'un bulletin bimensuel?
Les communications internes, on utilise des emails et le bulletin bimensuel, on le publie sur notre site Internet. On a un site avec toute la documentation nécessaire et la politique environnementale, le système d'aménagement environnemental que je viens d'expliquer est disponible aussi, ainsi que tous les bulletins des mois passés.
Pour revenir sur votre parcours, vous avez choisi de travailler dans le développement durable dans un milieu qui a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers le sport automobile et la F1?
Ah ben, moi, je suis enfant unique. Mon père est un énorme fan de la Formule 1. Et quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon père d'aller au Grand Prix à Montréal. Et la première année qu'on y était, on était bénévole. Et à chaque année depuis, on va à chaque course. Et c'est vraiment devenu un des meilleurs moments de l'année pour moi et mon père. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment devenu moi-même une grande fan de la Formule 1. Mon bac était en ingénierie mécanique. Donc, j'ai commencé en ingénierie et de plus en plus, j'ai commencé à aimer l'énergie renouvelable. Et c'est pour ça que j'ai tombé dans ma matrice qui était en énergie renouvelable. Et mon parcours était un peu mêlé, mais là, j'ai travaillé en gestion de déchets. Ça m'a vraiment apporté dans le monde de développement durable.
Bon, c'est un milieu qui est, j'allais dire, sur une pente ascendante, quoi.
Exactement. Et c'est vraiment, on dirait, c'est nouveau, comme c'est une nouvelle branche de carrière, on dirait.
Bon, merci beaucoup, Émilie Desjardins.
Merci, merci beaucoup.
Retrouvez le podcast Alpine en immersion sur rmc.fr et l'appli RMC.
Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1.